Boys. La chronique sport. Les sports avec Levez.
Là, mon Vez, j'ai besoin pendant le segment de sport
Oui. Que
Félix et toi, vous...
On s'occupe d'ouvrage.
Vous me rendiez service.
Okay, allons-y.
Parce que t'as d'autres choses à faire, là.
Non, je suis là, j'écoute, je suis là.
Oui, mais tu vas dormir les yeux fermés, mais tu vas
non,
être là.
Non, pas du tout. Okay. Faut que vous me reteniez, je suis trop là. Faut pas que je me fâche dans l'affaire Logan Mailloux. Fait que là, si jamais tu me parles de Logan Mailloux, de Belle, puis d'affaires... Non?
Oh non.
Ben, parce que...
Oh, non.
Pourtant, dans le Journal de Québec, eux autres, ils ont décidé qu'ils faisaient 3 articles un matin là-dessus. Non.
Arrête, couchez.
Félix, ça va être toi le responsable, OK? Si jamais, à un moment donné, je me fâche sur Logan Mailloux, même si Vez en parle pas, parce que tu vois bien que j'ai pas, même pas okay. besoin que Vez en parle, là. Mets-moi un genre d'effet sonore, quelque chose, ou juste allume ton micro.
J'ai une meilleure idée. Commence à parler de Logan Mailloux.
Tu fermeras mon micro, puis on réglera ça demain. Ça marche-tu?
Oh, ouais, ça
okay,
va.
Parfait. Bon, bonne idée.
Non, mais de toute façon, il y a plus d'affaires de sport à jaser ce matin que de Logan Mailloux.
Il y en a pour un 28 juillet, ça c'est hot.
Non, puis Logan Mailloux, juste dire qu'il y a des partenaires commerciaux, des commanditaires du Canadien.
Ah, c'est ça, on sait pas, les
qui ont contacté le Canadien pour faire part de leur déception. Bon, bref, on va résumer ça de même, oui. puis on passe à d'autres choses. Olympique Canada, maintenant, 9 médailles. Penny Oleksiak en a rajouté une, sa 2e des présents jeux et sa 6e en carrière aux Jeux olympiques parce qu'elle avait remporté d'autres médailles à Rio. Donc, elle a maintenant 6 médailles olympiques. Ça égale le record canadien de Cindy Klassen et Clara Hughes. Cindy Klassen, c'était en patinage courte piste et Clara Hughes en patinage de vitesse longue piste et en cyclisme. Clara Hughes a gagné des médailles et aux Olympiques d'hiver et aux Olympiques d'été. C'est quand même pas rien. Il reste encore 2 épreuves pour Penny Oleksiak. Le 100 mètres libre, elle avait remporté l'or à Rio il y a 4 ans dans cette discipline. Et au relais 4 fois 200 mètres libres, elle avait remporté avec ses partenaires le bronze en 2016. Hier soir, il y avait également le 200 mètres, la finale du 200 mètres, 4 nages individuels du côté féminin. Sydney Pickram, la Canadienne, a terminé 6e. Et on surveillait aussi du cyclisme sur route avec l'épreuve contre la montre. Chez les dames, Caroline Canuel a pris la 14e place, Hugo Hull 13e. C'est quand même pas mauvais, là. On n'est pas des puissances là-dedans. À la boxe, défaite de Caroline Vert chez les 57 kilos en quart de finale. Elle, c'est une Française établie au Québec depuis maintenant quelques années. Mais Tamara Thibault de Saint-Georges-de-Beauce a gagné son premier combat, son combat de 8e de finale. Et elle est donc qualifiée pour les quarts de finale. Alors, on va continuer de la suivre.
Question, Vez, notre ami Kim Clavel, là,
oui.
Pourquoi il pose aux Olympiques? C'est parce que c'est pas le même genre de boxe?
À la boxe, ce sont des amateurs.
OK.
C'est vraiment des amateurs qui sont aux Olympiques.
Mais ça, je l'ai jamais compris.
Elle est professionnelle.
Comment ça marche, ça? Peux-tu me l'expliquer? Mais on dirait
elle est passée chez les professionnels. Elle fait de l'argent pour faire de la boxe. Elle gagne des bourses maintenant.
Je veux dire, Félix Auger-Aliassime gagne l'argent avec du tennis.
Mais c'est différent. Chaque fédération mondiale ou internationale a ses règles.
Okay.
En basketball, les pros sont admis. Au hockey, l'hiver, les pros sont admis. Alors que dans d'autres sports, c'est juste des amateurs.
C'est étrange, ça.
Oui.
Puis les athlètes professionnels, eux autres, des fois, ils n'ont pas envie de dire comment ils... J'irais aux Olympiques. Mais quoi qu'il y a l'enjeu des casques, là, c'est pas la même affaire, la boxe olympique et la boxe professionnelle. Non.
La boxe professionnelle, il n'y a pas de casque.
Oui. La boxe olympique, c'est-tu aussi le but, c'est de gagner des rondes ou c'est de faire des points?
C'est plus des points. Bien, évidemment, si tu fais un knockout, ça aide à gagner, là.
Faire un coup de poing, ça.
Ah, c'est ça l'affaire. Mais les règles très précises, là.
OK, ouais.
Je la comprends difficilement parce que les athlètes. Tu sais, quand tu regardes, mettons, les Olympiques d'hiver, quand l'équipe canadienne ne peut pas avoir des joueurs olympiques, on suit beaucoup moins ça parce qu'on est moins investi dans
les joueurs de la Ligue nationale.
Oui, les joueurs de la Ligue nationale, quand ils vont pas, les derniers Jeux olympiques, j'ai à peine suivi le tournoi de hockey.
C'est clair.
Parce que c'est ça. Mais imagine, si mettons, dans le temps où on avait Lucien Bouté, Jean-Pascal, t'envoies ça aux Jeux olympiques, je m'excuse, tout le monde, Floyd Mayweather aux Jeux olympiques, arrête-moi ça, l'argent qui se ferait là.
J'avoue.
Mais je veux dire, au niveau des
décisions... D'un autre côté, t'as des athlètes de boxe qui se spécialisent dans la forme de la boxe olympique, là, mm-hmm. donc avec les casques puis les gants de cette façon-là.
Puis les règles puis légèrement différentes quand on rentre dans le détail. Là, mais
qui disparaîtrait complètement de la map. Ouais.
Mais Floyd Mayweather irait-tu aux Olympiques, sacrifier peut-être un combat professionnel pour aller aux Olympiques? Tu sais, c'est de la préparation pour un combat là, chez les pros.
C'est vrai que
c'est 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois de préparation pour un combat.
C'est vrai qu'à la boxe, c'est pas comme dans la majorité des sports où tu peux compétitionner.
Ouais.
Tu peux faire beaucoup de compétitions dans une année. En boxe, c'est quoi? C'est 3 combats dans l'année.
3-4,
c'est max, max 4.
Mais c'est parce que, tu sais, Jean-Pascal, là, bon, oublions son histoire de dopage, mais le dernier combat qu'il devait faire, là, qui a été annulé à cause de ça, il allait faire 2 millions. Il n'aurait pas fait 2 millions aux Olympiques.
Non.
Fait que,
non, c'est vraiment plus une question d'honneur puis de la médaille.
Oui, mais c'est parce qu'il l'a vécu, les Olympiques, avant de devenir
mais
pro. Là,
les joueurs de hockey, pour ramener ça à l'exemple des joueurs de hockey de la Ligue nationale, là, il y en a qui font 10 millions dans l'année, puis les Olympiques, c'est pas payant, mais ils vont pour la compétition.
Exact.
Sauf que, là, ça revient à ce que tu disais, eux autres, ils peuvent jouer une saison, des séries, puis un tournoi en extra quand c'est le championnat du monde, puis ci, puis ça, ou bien les Olympiques. Le boxeur, lui, est obligé d'annuler un de ses 4 combats de l'année pour faire les Olympiques.
Effectivement.
Ouais, je vois un peu le genre.
Ouais. Quelqu'un nous dit, Mohamed Ali est allé aux Olympiques, oui, il est allé aux Olympiques de Rome en 1960 avant de devenir professionnel. Il n'est pas retourné aux Olympiques après, sauf pour allumer la vasque des Jeux d'Atlanta en 96. Après ça, Marc Gagnon a gagné combien de médailles? Il me semble que c'est 5.
Okay.
En passant, je vais vitesse courte piste. Bon, bref, où est-ce que j'étais rendu, moi?
Ben, donc, peut-être là? De rappeler la médaille d'or, même si c'est arrivé pendant l'émission d'hier matin,
oui,
la médaille d'or de ma cousine Maude. Là,
oui, Maude Charon de Sainte-Luce-sur-Mer, près de Rimouski, en haltérophilie.
Ça, c'est vraiment
cool. C'est une belle histoire. Oui. Écoute, ça fait juste 5 ans qu'elle fait de l'haltérophilie.
Ça fait 5 ans. Elle a commencé à 19 ans.
Ouais.
Puis.
Ben non, elle a 28. À 22, 23.
Elle n'a pas commencé à 19 ans?
Non.
OK.
22-23.
Mais tu n'aurais pas que ça. Je suis pas assez sûr de mon coup. Mais ça me l'a entendu ça, mais.
Parce qu'elle a 28, puis on a dit partout qu'elle faisait de l'haltérophilie depuis 5 ans. Puis j'ai entendu une clip avec son père qui disait qu'elle a commencé à 22-23 ans l'haltérophilie.
Ah, ouais,
elle faisait de la gymnastique avant.
Ah oui, ça a du sens. D'ailleurs, elle a fait un beau plaidoyer sur la diversification des sports chez les jeunes. Disait justement le fait que j'ai fait de la gymnastique, ça a permis à mon corps de développer l'équilibre puis la force vraiment de tout le corps. Puis elle a fait aussi autre chose avant de faire de l'haltérophilie.
Elle joue de la musique aussi?
Du crossfit.
Elle
était championne de crossfit. En tout cas, elle faisait beaucoup de crossfit. Là. Puis ça, encore une fois, le crossfit, c'est comme plusieurs types d'épreuves différentes. Donc, on est dans la musculation, mais t'sais, la force, la puissance, puis en entraînement physique, là, pour le très peu que je connais, il y a vraiment différentes façons de s'entraîner. Puis elle disait, si aujourd'hui j'ai été capable de remporter la médaille d'or en haltérophilie, c'est parce que avant j'ai fait tant d'autres choses. Puis même effectivement, la musique, elle disait, faire de la musique, puis des spectacles, puis la gym aussi, la gym, c'est des spectacles de gym. Elle disait, moi, ça m'intimide pas, là, le jury, le public, ces choses-là, les caméras, j'étais habitué à ça. T'sais, évidemment, ça faisait référence aux jeunes qui font, au Québec, en tout cas aux jeunes qui font du hockey, rien que du hockey à l'année longue, à partir de 4 ans, parce qu'on se dit « yes, la Ligue nationale ». Mais c'est tellement important de faire plusieurs sports aux jeunes, puis elle en est la preuve vivante.
Mais c'est ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe de plus en plus, là, la surspécialisation. Ouais. On s'est éloigné de faire plein de choses parce qu'il y avait tellement d'athlètes qui se spécialisaient, mon Dieu. Mais plus on a avancé, plus on a vu qu'au contraire, le multidiscipline, ça te donne différentes capacités.
Puis ça te donne on va appeler ça des compétences ou des qualités athlétiques qui sont complémentaires. Puis tu vas jouer au tennis, puis il y a des choses que tu vas apprendre au tennis, puis sans t'en rendre compte, ça va t'aider dans un autre sport. Puis d'ailleurs, il y a des publicités qui jouent à la télé pendant les Olympiques.
Ouais.
C'est un site internet qui s'appelle Jouer plus de sport. Allez naviguer là-dessus un petit peu là, pour voir tous les avantages. Puis surtout en bas âge, parce que quand tu te spécialises dans un sport très jeune, puis tu le gardes pendant plusieurs années, tu risques de développer des blessures à long terme.
Ça
arrive pas d'un coup sec, mais à long terme, ça arrive pas tout le temps, mais tu augmentes le risque de développer des blessures et tu augmentes surtout le risque de faire baisser le niveau de motivation après quelques années parce que tu fais juste ça.
Ouais. Ça met beaucoup de pression sur les jeunes. Puis cet aspect-là aussi, il y a le tangible puis l'intangible. Là. Oui, on est capable de dire, OK, tel sport a développé telle qualité physique. Puis, mais moi, j'ai toujours été convaincu, puis là, c'est une opinion, là, il n'y a pas de science derrière ça, mais j'ai toujours été foncièrement convaincu que quand tu pratiques plusieurs sports, mettons, je sais pas moi, le tennis, le baseball puis le hockey, Quand tu arrives sur la patinoire, tu vois le jeu différemment. Mmh. Au-delà de tu plus travailler le haut de ton corps, le bas de ton corps, là, mmh. ta vision du jeu est différente parce que tu es habitué de voir différents types de sports dans lesquels les stratégies puis les tactiques s'orchestrent de telle ou telle mmh. manière. Tu vois pas le jeu de la même façon.
Non,
quand tu as joué au tennis, quand tu as joué au baseball, qui est un sport aussi, ou bien au football, par exemple, c'est arrête, démarre. Puis là, c'est vraiment des tactiques, des jeux, des courses. Après ça, le tennis, là, c'est plus un contre un. Tu arrives dans un autre sport puis tu as un bagage mmh. là, même mmh. psychologique, mental, qui est complètement différent.
Mais que puis, si il y a une époque où, chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, leur seul ami, c'est leur cell ou leur tablette. Là. Quand tu fais ouais. du sport, puis tu fais différents sports, tu vas développer différents groupes d'amis.
Oui,
toi, tu vas développer... Socialement, c'est aussi important.
Tu vas développer la tablette, le cellulaire, la manette, l'ordi. Oui. Tu sais, plusieurs amis.
Mmh. Moi, j'ai des groupes de chums de gamers, de différentes
Clavier,
plateformes.
Tapis de souris, ouais, ouais, oui, chaise d'ordi, ouais. plusieurs amis.
Bon, en aviron, bon, petite déception, oui puis non, mais je pense pas qu'on avait des espoirs de médaille beaucoup, mais sixième place pour Jessica Sevic et Gabrielle Smith en deux de couple chez les dames.
Ça a pris combien de temps à faire leur épreuve? Environ 5 minutes?
Aviron.
Et voilà!
Parce que c'est quand même 2 kilomètres.
Je pense que ça aussi, ça mérite de fermer ton micro
ouais,
pendant 5
ouais,
secondes.
Bonne idée. Volleyball masculin, on en a parlé tantôt, victoire du Canada en 3-7 contre l'Iran. Le Canada garde espoir de participer au quart de finale. Ça va dépendre des autres résultats de ce groupe, de ce groupe-là et les deux prochains matchs du Canada aussi. En tennis double mix, ça vient de se terminer il y a quelques instants. Défaite pour Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski contre le duo grec de Maria Sakkari et Stefanos Tsitsipas en deux manches 6-3, 6-4. Je vous le rappelle, le Canada, on est rendu avec 9 médailles, 2 d'or, 3 d'argent et 4 de bronze. Puis c'est, je te dirais, pour la matinée, là, c'est pas mal terminé pour ce qu'il y a à suivre pour les athlètes canadiens et canadiennes. À part de ça, ben on tombe dans le hockey parce qu'avec c'est aujourd'hui à midi l'ouverture du marché des joueurs autonomes.
Ça, c'est le fun.
Ouais, c'est le fun parce qu'on va avoir des confirmations de quelques rumeurs qui sont déjà dans l'air.
Il y a des affaires qui sont même
pas mal réglées.
Parce que j'ai-tu compris qu'il y avait comme une période de maraudage.
De maraudage, tu peux tenter le terrain auprès d'agents de joueurs.
T'as le droit de négocier un peu.
Ouais, essayer d'avoir une idée des demandes. Est-ce que ça vaut la peine de continuer mettre des offres à la table.
Mais tu sais, techniquement, tu peux pas ratifier le contrat puis annoncer la signature.
Mais... À moins que ce soit un joueur qui t'appartienne déjà. Là, ouais, comme hier, il y a un Armia avec le Canadien. Là. Mais hier, dans les rumeurs qui concernent le Canadien, il y a David Savard qui était à Tampa Bay, qui a gagné la Coupe avec Tampa Bay. Puis Cédric Paquette qui l'a gagné l'an dernier avec Tampa Bay avant d'être échangé à Ottawa puis après ça en Caroline. Les deux, donc, s'amèneraient chez le Canadien. Je dis bien s'amèneraient. C'est encore à l'étape de rumeur. Ça sera confirmé probablement à midi et une.
Il y a certains journalistes même qui disent
que c'est fait.
Ça sera confirmé, mais en tout cas, on se garde une gêne.
On va se garder une mini-gêne. On parlait aussi dans les rumeurs, puis là, je le dis au passé, Gabriel Landeskog de l'Avalanche Colorado qui devient à midi joueur autonome, en fait, qui allait devenir joueur autonome à midi, mais il a signé avec l'Avalanche, finalement, un contrat de 8 ans pour 56 millions. Certains parlaient que le Canadien pourrait être intéressé à Jack Eichel des Sabres de Buffalo, mais ça a l'air que les Sabres sont beaucoup trop gourmands. Puis de toute façon, Eichel, il prend 10 millions sur la masse salariale. Je suis pas sûr que le Canadien veut vraiment s'embarrasser de ça.
Même surtout, s'il faut que tu donnes Nick Suzuki, tu sais.
Ben non, ouais. Ça, c'est sûr.
Il y en a pas question.
Non, c'est ça.
Le 10 millions, je pense qu'il vaut plus qu'en masse. Là.
Ouais, mais c'était le DG des Sabres, là.
Oh, mais non, mais. Ouais.
Mais en même temps,
je voyais
pas.
Des gens, ils disaient ah non, mais tu donnes le premier choix, puis Drouin.
Mais non, c'est quelque
DG
chose.
Des Sabres, il veut pas le premier choix, puis Drouin.
Réalistiquement, là, c'est quelque chose comme. Admettons qu'on considère que les rumeurs disent que les seuls intouchables du Canadien, c'est Suzuki et Caulfield. Dans un échange de ce genre-là, là, les rumeurs, ce qu'ils disent, c'est ça. C'est tu comptes Kotkaniemi, Romanov, Kaiden Goulet, le dernier choix de première ronde là, qui était haut, puis un ou deux autres choix de première ronde, espoir mineur, choix de deuxième ronde, quelque chose de même.
Ouais, mais de toute façon, tu peux-tu sacrifier le quart de ta masse salariale sur deux joueurs?
Ouais, c'est l'autre affaire.
Tu sais, c'est 10 millions et demi pour Price, puis ce serait 10 millions pour Eichel. Tu sais, Eichel, là-bas, il est bon en tabarouette, là. Mais
non, je ne ferais pas ça.
C'est un calcul de comptable aussi, mais une question.
T'as quand même
logique.
Une équipe qui vient de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Là, je regarde les histoires d'agents libres, tout ça. C'est sûr qu'il y a des gros mouvements de personnel. Weber sera pas là. C'est une grosse pièce là.
Dano,
Dano s'en va. Tatar, ça ne me dérange pas. Il ne joue pas dans les séries. Dano, c'est un gros morceau aussi. Donc tu sais là, c'est d'essayer de trouver un moyen de remplacer ces gars-là. Mais sans trop chambouler tout dans ton vestiaire, tu sais.
C'est que ça, c'est un défi.
Là, commencer à vider ton club, aller chercher la superstar dont on connaît rien trop sur l'attitude, hein, en passant. Là, il est en chicane avec son ancien club, lui, là. Ça fait que...
Oui, oui.
Me semble que
en même temps, c'est sabre, là. Moi aussi, je me mettrai en chicane avec eux, là.
C'est ça. Ben, t'as raison. C'est une organisation de tout croche. Mais, tu sais, le risque que tu prends, en vaut-tu vraiment la chandelle?
Non.
Moi, je pense pas. Je pense que c'est. Le risque, c'est pas juste de débarrasser d'espoir dans le but d'aller chercher un bon joueur. Le risque, c'est aussi de tout déséquilibrer ton équipe.
Oh, ouais,
qu'il y a des joueurs qui voient cette arrivée-là en disant, ils étaient pas prêts à donner 6 millions à Dano, mais ils sont prêts à donner tout le club puis 10 millions à ce gars-là.
Exact.
C'est ça le risque.
Pis c'est rare une équipe qui est allée gagner une Coupe Stanley avec juste un grand joueur vedette, là.
Assez rare.
Il y en a peut-être,
que,
là, mais.
C'est pas vrai que les Pingouins de Sidney Crosby avec que Sidney Crosby.
Puis, gars, Connor McDavid à Edmonton.
Ça marche pas.
Ça peut être un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de la ligue. Il s'est même pas rendu proche, là. Alex Ovechkin a signé 5 ans pour 47,5 millions, donc 9,5 par saison. Tony DeAngelo serait près d'une entente avec la Caroline. Les Rangers l'ont libéré. Pavel Buchnevich, c'est pas une grosse nouvelle, qui avait été acquis par les Blues des Rangers de New York pour Samuel Blais. C'est là que ça devient intéressant pour Sam, c'est un gars de Montmagny. Donc, Buchnevich a signé un contrat de 4 ans avec Saint-Louis. Philippe Dano va aller sur le marché des joueurs autonomes. J'ai bien hâte de voir où il va se ramasser, puis pour combien. Tout le monde a hâte de voir ça. Là.
La grosse rumeur, c'est Vegas, qui ont un besoin criant au centre.
Ouais. Mm-hmm.
Vegas vient de se débarrasser du salaire de Marc-André Fleury.
Oui, 7 millions.
Et ils auraient signé Dano. Ben, en tout cas, ils seraient sur le point de signer Dano. Ce que j'ai vu, c'est un genre de 6-7 ans, à peu près 6 millions par année.
Il y a des rumeurs qui montent ça jusqu'à 6,5.
Ben, si c'est le cas, ils vont être heureux pendant 2 ans, puis ils vont le racheter. Mais regarde, Philippe voulait tester le marché des agents libres. Il y avait plus d'argent ailleurs. Moi, tu sais, sincèrement, ça fait une couple de jours là, que je dis que je suis déçu que Dano s'en aille parce que c'est un joueur que j'adore.
Ben oui.
Mais s'il y a vraiment un club qui est prêt à donner 6,5 millions, vas-y, mon chum, va vivre le rêve de Vegas. Tu sais, je suis derrière toi. C'est beaucoup trop cher pour Philippe Dano.
Ben oui.
C'est trop d'argent.
C'est sûr.
C'est trop d'argent. Mais c'est trop d'argent qu'il va aller à Philippe Dano, puis en espérant qu'il revienne finir ses vieux jours au Québec. Puis, tu sais, dans un sens, on peut pas y en vouloir d'être allé chercher ce type d'argent-là.
Ça ramène à ce que je disais tantôt, le hockey, c'est une business. Pendant l'été, c'est une business.
Mais si j'avais, moi, ce qui m'aurait déçu, puis là, on verra, c'est vraiment des rumeurs, moi, ce dont je vous parle. Puis c'est des insiders de la ligue qui parlent de ça, c'est pas moi, là. Mais s'il signe pour 6 millions, 6,2, 6,5, let's go. S'il signe pour 5,25,
ouf,
je serais dégoûté. C'est vraiment ça l'affaire. C'est qu'il quitte le club pour des grenailles de plus. Mais regarde, on verra. On en reparlera demain, parce que demain, on n'aura probablement plus de détails sujet.
Oui, donc Marc-André Fleury est changé hier officiellement par les Golden Knights de Vegas aux Blackhawks de Chicago en retour de rien. Finalement, c'est quasiment une transaction financière, point final. On libère 7 millions sur la masse salariale, d'autant plus qu'à Vegas, tu as un autre gardien numéro 1. Tu sais, à peu près nez à nez avec Fleury, c'est Robin Lehner, qui a raté plusieurs matchs la saison dernière parce qu'il était blessé, mais normalement, ça aurait dû être lui le gardien numéro 1. Et les Knights obtiennent en retour un attaquant finlandais de 23 ans, choix de 5e ronde en 2018, Mikael Hakkarainen.
Ouais, il voulait sauver le salaire. Là,
non, c'est juste ça. C'est exactement juste ça. C'est peut-être juste ça qui va permettre de signer Dano, si la rumeur
c'est
se confirme.
Ça. Le bout que je comprends pas, c'est que Fleury l'apprenne ses réseaux sociaux.
Ouais, c'est malhabile.
Malhabile, là, moi j'ai tendance à trouver que c'est.
Ben malhabile, c'est un euphémisme.
C'est mal foutu là.
Moi je pense que ça rejoint un peu plusieurs rumeurs comme quoi il y a de la difficulté avec le coach et un peu la direction. Là, peut-être que je suis dans le tort complètement, mais on en entend beaucoup parler de Peter DeBauer puis Marc-André Fleury, que c'est pas l'amour fou.
Ouais, mais c'est pas DeBauer qui a fait la transaction.
Non, mais je veux dire, c'est sûrement une chose.
Il y a quand même une façon de faire les choses dans la vie. C'est des entreprises.
d'accord.
C'est une entreprise qui engage un contractant qui s'appelle Marc-André Fleury. Il t'a rendu de fiers services. Il a fait faire de l'argent à ton entreprise.
Ben oui. Il a vendu. Il a ça a été le meilleur vendeur de hockey à la Zé.
C'était le poster boy, là.
Ben oui. Ouais.
Fait que là, à un moment donné, là, on est dans un minimum de respect ici, de dire, regarde, Marc-André, merci pour tes services. Ben, c'est un plaisir. Fait, là, tu nous as aidé à lancer la franchise, puis on va t'échanger. Et après, il apprend l'échange sur Twitter. Ben moi, ouais. je trouve
alors
ça...
Marc, il savait que les Knights allaient l'échanger, mais de la confirmation, il aurait dû être le premier à le savoir, là, lui ou son agent. Mais c'est d'autant plus surprenant que ce soit arrivé dans l'organisation qui est peut-être la plus habile dans ses communications avec le public, dans la Ligue nationale. Souviens-toi de leur compte Twitter, là... Les Knights de Vegas, ils sont forts en tabarouette.
Ils sont forts sur le marketing.
Oui, ouais, c'est ça. Mais dans la relation avec les joueurs, on pourrait peut-être se poser des questions.
Il y a une tendance,
questions.
C'est ça. Là, tu regardes même Gérard Galland, comment il a été congédié. Ben c'était pas, c'était un peu cavalier.
C'est cavalier, oui.
Nate Schmidt, l'histoire de Nate Schmidt aussi. Tu sais, c'est l'histoire avec les joueurs, c'est un peu...
Ouais. Et c'est la première fois en 20 ans, donc depuis 2001, que le gardien qui remporte le trophée Vézina est échangé avant le début de la saison suivante.
Oui.
C'était arrivé à Dominique Hašek qui avait été échangé par les Sabres de Buffalo aux Red Wings de Détroit après avoir gagné le trophée Vézina. Même genre d'opération financière avec Tampa Bay qui envoie Tyler Johnson et ses 5 millions de salaires à Chicago avec un choix de deuxième ronde pour un joueur qui est retraité, Brent Seabrook. Donc, c'est carrément une transaction financière. Yoel Armia en a parlé, a signé un contrat de 4 ans. Lui, il aurait pu devenir joueur autonome ce midi. Patrick Laine a signé l'offre qualificative des Blue Jackets, 1 an pour 7,5 millions, donc avec Columbus. Les Blue Jays n'ont pas joué à Boston hier parce qu'il n'y a plus, ils vont jouer un double aujourd'hui. Et Abraham Toro, ça c'est un peu particulier, il jouait avec les Astros de Houston. Les Astros étaient à Seattle pour affronter les Mariners. Et durant la presse au bâton, on vient l'avertir qu'il a été échangé aux Mariners.
Impossible.
Oui. Alors, il a arrêté sa pratique au bâton. Il est allé ramasser ses affaires dans le vestiaire des Astros. Puis, il a pris sa poche. Puis, il est allé dans le vestiaire des Mariners. Puis, le soir, il a été utilisé comme frappeur d'urgence. Il a frappé un circuit de 2 points.
Ah!
Oh, que c'est bon.
Mais son équipe. Qu'est-ce que tu me racontes?
Mais son équipe a perdu 8-6.
Ça n'a aucun sens. Un instant, là. Wow.
Non, mais pas d'instant. Je te l'ai dit. Je te l'ai expliqué. Là. C'est quoi mais que tu veux savoir de plus?
Le gars, il joue pour les Astros qui sont à Seattle contre les Mariners.
Oui.
Pendant la pratique au bâton.
Oui, en fin d'après-midi, là.
Donc, la game est dans 2-3 heures, genre.
Oui.
Je faisais, t'as été tradé pour l'autre club. Fait qu'il traverse le corridor.
Oh, oui.
Puis il joue le soir.
Oui.
Puis en plus de jouer le soir, il frappe un circuit.
Oui, contre son ancienne équipe.
Incroyable!
Oh oui, c'est une belle
ça
histoire.
Ça n'a aucun sens.
Il y a une affaire qui était déjà arrivée qui ressemble à ça. C'est pas tout à fait pareil, mais au baseball, ça implique les expos. Joel Youngblood. Si je ne me trompe pas, il jouait pour les Mets de New York. Il a joué pour les Mets en après-midi. Puis entre les deux, à la fin du match, on lui dit, tu viens d'être échangé aux expos, tu t'en vas à Chicago. Les expos sont à Chicago. Il me semble que c'était ça. Le soir, il arrive peut-être un peu en retard au match. Il est utilisé comme frappeur suppléant, je pense. Je pense qu'il n'était pas partant avec les expos contre les Cubs. Puis il a frappé un circuit le soir pour les expos. Il en avait frappé un l'après-midi pour les Mets. Il faudrait que je revérifie tout ça. Je te dis ça de mémoire, là, mais je pense que je me trompe pas bien.
Ça n'a pas de sens.
Ouais.
Ça n'a pas de sens. Et des fois, des joueurs échangés en cours de partie, tu vois ça, là, mais...
Ouais. Ça arrive, c'est déjà arrivé des transactions le matin d'un match. Puis,
Mike Camilleri n'avait pas été échangé à un moment donné pendant une game.
Ouais.
Entre deux périodes.
Oui, il avait quitté. Je pense que le Canadien était à Boston.
Oui, puis il avait quitté pour le banc pendant la période.
Oui, il avait quitté pour le vestiaire. Ouais.
Merci, Mike.
Quelque chose qui ressemblait à
contre
ça.
Contre la merveille du lac Biche.
Mais
René.
Lac Labiche. René Bourque.
Lac Labiche. René Bourque.
Ah oui, c'est vrai. René Bourque.
René Bourque. Puis c'est déjà arrivé des joueurs qui sont échangés. Qui s'en vont avec l'équipe qui était pour affronter le soir. Puis c'est arrivé à quelques reprises. Juste un petit mot en finissant sur la NBA. Puis c'est une idée qui va. Parce que je vais l'expliquer avant. La NBA va garder finalement son format de tournoi éliminatoire pour permettre à plus d'équipes d'espérer faire les séries. Donc, jusqu'à maintenant, c'est les 8 meilleures équipes de chaque conférence qui font les séries éliminatoires. Sauf que durant la dernière, pas la saison qui vient de se terminer, mais l'an dernier, la saison tout croche 2019-2020, on avait fait un mini-tournoi éliminatoire pour espérer... T'sais, les équipes qui étaient en position au moment de l'interruption de la saison, qui étaient encore en position de faire les séries, on a fait un tournoi avec ces équipes-là pour finalement en sortir 8 par conférence. Et on a décidé de garder cette formule-là, ou à peu près. Donc, au lieu de garder les 8 de chaque conférence, on prend les 6 premières équipes. Les équipes 7 à 10, donc 4 équipes, vont faire un petit tournoi pour voir les deux équipes qui vont s'ajouter aux 6 premières.
Comme dans la bulle de la Ligue nationale.
Exactement. C'est là que j'arrivais. Est-ce que la Ligue nationale pourrait être tentée de faire ça?
C'est comme ça que les Canadiens avaient participé aux séries, pas les plus récentes, mais l'année d'avant.
Exactement. C'est vraiment la bulle un match. Puis ça permet de répliquer un peu les séries.
C'est un seul match.
Ouais. Dans la NBA, c'était ça, là.
Ouais, ben là, ça va-tu être ça ou.
Parce qu'on a vu ça. Un 2-3, ça ferait bien. Un 2-3, non, ça serait pas pire au hockey, ça.
Ouais, mais il y a une question de date aussi.
Ouais.
Là.
Ouais.
Puis ça te permet de répliquer un peu à la NFL que tu peux pas manquer un match de série de la NFL parce que c'est fini, il y a rien d'autre.
Ouais, ouais. Mmh.
Fait que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau du drama qui va bien avec ça.
Parce qu'au hockey, c'est un 3-5 de la première ronde. Le Canadien avait sorti Pittsburgh, si je me trompe pas, avant de perdre contre Philadelphie en première ronde des vraies séries.
Oui. OK. Exactement.
Dans un 4-7.
Oui. C'est des 4-7.
Oui, contre Philadelphie. OK. Ça. Alors, peut-être que la Ligue nationale va y penser. Si ça donne un bon show, puis ça permet à plus d'équipes d'être impliquées plus tard dans la saison, ça fait que ça peut juste être bon. C'est comme l'avènement du meilleur deuxième au baseball aussi. Ça a permis à plus d'équipes d'être. Tu sais, puis les fans de ces équipes-là d'être impliqués, puis d'avoir du fun, puis d'espérer que leur équipe fasse les éliminatoires.